Tous les jeudis à 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Les rendez-vous littéraires sur Radio MDM, ce sont évidemment des rendez-vous avec les gens qui vendent les livres, qui en parlent aussi, ce sera le cas avec Aurore Pourny tout à l'heure, mais quand même aussi avec ceux qui les écrivent, c'est bien. Bonjour Gilles Kerlock.
Ben bonjour.
Gilles Kerlock, ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, en plus ici même.
C'était, ouais. Oui, c'était l'année dernière.
Ouais, ouais c'était ouais. Pour, rappelez-moi.
Eh ben c'était pour quoi, merde.
Eh ben oui, mais c'est-à-dire qu'il en écrit tellement.
Non, mais c'est pas ça.
Si, c'est vrai.
Non, c'est mon grand âge qui commence à...
On avait parlé d'île et d'Adour.
Ah oui, c'est ça, oui, voilà, ouais. C'était sur... Oui, c'est ça, c'était ouais. Ça.
C'est combien c'est trois par an, quasiment.
Non.
C'est pas loin.
Bon, non.
Ouais,
non. C'est un, deux, peut-être par an.
Ouais.
Ça dépend des sujets, ça dépend de ce qu'on a envie de raconter. Ouais. Voilà.
Parce qu'en tout et pour tout, depuis les débuts, ça fait combien d'ouvrages qui sont sortis?
Honnêtement, autour d'une quarantaine de livres, ouais. Je crois, dans ces eaux-là.
Des livres où, en filigrane, on peut dire, on a la nature... L'histoire, les mystères de l'histoire, des mystères tout court, qui se déclinent, on va dire, en bande dessinée, documents, en récits, en romans. Là, c'est un petit peu le cas aussi, sauf que, meurtre dans les Pyrénées, que s'est-il passé ?
Des meurtres. Non, pourquoi en fait, tout simplement, c'est parce que je parcours beaucoup les Pyrénées. Ça, c'est ouais. un univers qui me plaît énormément. Et je l'avais décliné sur des documentaires il y a quelques années. Donc, j'avais parlé de la forêt d'Irati, notamment. C'est un lieu que j'avais adoré visiter. Et en fait, c'est un lieu tellement emblématique du Pays Basque que j'avais envie de raconter une histoire aussi sur le lieu, donc une fiction. Donc voilà, le pourquoi, c'est ça, c'est que de partir effectivement de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu sur la forêt d'Irati, j'ai eu envie d'ouvrir les portes d'une fiction et de raconter des noirceurs, forcément.
Ouais. Noirceur, j'allais dire thriller, polar, enfin on est dans du fantastique même.
Alors ça, c'est pas réellement du fantastique parce que c'est à la marge, vraiment à la marge. Parce qu'effectivement la forêt d'Irati, ça cristallise beaucoup de légendes basques. Et l'idée en fait c'était de raconter une histoire réelle, avec des personnages réels, et qui touche légèrement un petit peu à l'imaginaire. Donc chacun des personnages de l'histoire fait référence à un personnage forcément légendaire de la forêt d'Irati.
Je fais l'impasse sur le titre, il y a des obligations que parfois doit... un écrivain à sa maison d'édition. Meurtre dans les Pyrénées, il y a combien de crimes, de meurtres dans cette affaire?
Alors le problème c'est qu'il y en a tellement, il y a des meurtres de masse aussi, donc c'est un peu compliqué de raconter. Non, il y a peut-être une centaine oui, de personnes, mais bon voilà.
Pour pitcher l'histoire, comment on pourrait dire,
pour pitcher ça. L'histoire, comment dire, c'est un lieu, c'est un village fictif qui s'appelle Arcoas, qui correspond à un village quand même qui existe, que j'ai parcouru, mais qui m'a beaucoup plu. Donc, création d'un village fictif. Et dans ce village fictif, il y a tout un tas de personnages qui gravitent, qui vivent proches ou lointains de ce village-là. Et forcément, comme il y a des rassemblements humains, ça crée souvent des tensions ou des amours. Et c'est cristallisé effectivement par le lieu, donc la forêt qui est un petit peu isolée. Donc, il y a parfois des erreurs qui se passent, quoi, voilà. Ouais. Donc, c'est un petit peu multiplié par rapport au lieu aussi, au lieu en particulier. Donc, il y a tout un tas d'horreurs entre les deux frontières, puisque ça se passe aussi en Espagne et en France. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses qui vont se dérouler avec cette confrontation humaine entre les deux pays.
Alors, moi, j'ai vu du... Il y a du Gévaudan, il y a du Blair Witch, il y a un petit peu de Twin Peaks avec ses cabanes, notamment la saison 2, les fidèles vont me comprendre, dans lesquels il se passe des choses à la fois mystérieuses et terribles, voire horribles. On dit toujours les influences de Gilles Kerlock pour ce livre.
Ah mais bien sûr, il y a des influences, c'est obligé. On ne peut pas écrire une histoire sans influence. Effectivement, ce que tu disais là tout à l'heure, les séries que tu citais, oui, bien sûr, ça c'est des choses que j'ai adoré regarder quand j'étais plus jeune. Mais oui, il y a de ça, effectivement, mais il y a aussi de l'inspiration, effectivement, sur le lieu. C'est-à-dire que moi, quand j'écris un livre ou quand je dessine un livre, il y a toujours une phase de vagabondage avant. C'est-à-dire que ça, c'est obligé. Et quand je vagabonde, je ramène souvent des images, des histoires, des rencontres, des choses comme ça. Irati, ça a été ça aussi. Irati, effectivement, ça a été des rencontres de personnes, de lieux, et aussi des traditions, des histoires, des légendes. Et en fait, c'est une grosse machine à laver. C'est pas une histoire linéaire, forcément, en fait, c'est des personnages. C'est-à-dire que chaque chapitre S'attache à un personnage de l'histoire, mais qui se recoupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages se retrouvent sur d'autres. Voilà. Donc c'est une sorte de visite par le biais de certains personnages et de découverte des lieux, voilà, et de leur tragédie.
Et la forêt d'Irati comme dénominateur.
Qu'est-ce qu'elle a cette forêt en fait, c'est une forêt qui est très paradoxale, en fait, cette forêt. Parce qu'en fait, c'est une forêt d'exploitation, c'est-à-dire que c'est une forêt qui a été plantée pour l'exploitation du hêtre, mais elle est aussi sauvage. C'est-à-dire qu'il y a des zones, effectivement, qui sont presque des forêts primaires. Donc, je dis presque parce qu'en France, il n'y a plus de forêt primaire, mais ça pourrait être une forêt primaire. Et la forêt d'Irati, ben, c'est quoi ? Ben, on s'y perd. On arrive à s'y perdre, on peut s'y perdre, volontairement ou pas, mais on peut s'y perdre vraiment. Et quand on s'y perd, bah, on peut imaginer tout un tas de choses. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un a voulu cacher quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un a voulu disparaître ? Voilà, il y a toutes ces choses-là de la disparition dans cette histoire-là. Et quoi de plus beau qu'une forêt pour disparaître ?
Ouais.
La forêt d'Irati, c'est pas une forêt landaise, hein, c'est pas plat. C'est des trous partout, des grottes, des cavités, des hauteurs, des lieux inaccessibles. Donc, pour chercher quelqu'un dans une forêt de ce type-là, c'est quasiment impossible.
Ouais.
Il faut des jours et des jours et des jours.
Et donc Xavier Dupont de Ligonnès peut-être se cache là-bas. Ça pourrait.
Ça pourrait, mais je pense qu'il est beaucoup plus loin.
Il y a des scènes véritablement terrifiantes. Je ne suis pas du genre à me cacher sous la couette dans le genre d'un film fantastique ou d'horreur, mais il y a des scènes vraiment... J'ai lu le livre tard dans la nuit. Comment on s'y prend pour faire peur, pour écrire la peur, pour écrire la terreur?
Ben, en fait, moi je me suis juste fait plaisir. C'est ça qui est paradoxal. En fait, je me suis dit, voilà, je me suis amusé, en fait, effectivement, avec des personnages, et j'ai essayé d'aller dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit cette histoire-là, effectivement, on peut se dire, non, mais c'est un peu exagéré, c'est un peu extrême. Oui, oui, certes, mais c'est ça aussi que j'aime faire aussi, c'est aller un peu plus loin qu'un banal scénario de roman policier avec un meurtre, une enquête et la résolution. Non, non, là, l'idée, c'était effectivement de croiser tout un tas de genres dans un univers naturel et d'aller dans les extrêmes, c'est-à-dire que tous les personnages sont extrêmes. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, chaque personnage pouvait correspondre à un personnage légendaire. Donc il y a les géants, il y a les lutins, voilà. Et chaque personnage est presque une caricature, mais c'est juste pour le plaisir de l'histoire. Voilà.
Ouais. Il y a une scène ultra, ultra flippante où, allez, je vais pas te raconter, où dans une cabane, une femme accueille une autre jeune femme qui s'est perdue, qui lui donne à souper, et elle lui dit, la première personne que j'ai tuée, j'avais 14 ans. Je vous en dis pas plus. Des lieux, justement, terrifiants, où le temps s'est arrêté, qui sont décrits. On dirait que c'est le prolongement un petit peu de Carnet d'Urbex, dans lequel vous alliez dans des lieux, explorer des lieux où justement, plus personne ne vit, mais où le temps s'est figé.
C'est exactement ça, parce que le bagage que je fais avant d'écrire ou de dessiner, c'est aller à la rencontre de lieux qui sont hors normes. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que aller voir effectivement une forêt qui est très difficile d'accès, ça me plaît. Aller voir un château abandonné, visiter les tours, les souterrains, ça me plaît aussi. Donc ça fait partie de tout, d'un grand tout. Effectivement, c'est aussi cette exploration-là qui me nourrit. C'est les sentiments que j'ai en visitant un lieu comme ça qui fait que j'ai envie de raconter aussi ce lieu, que j'ai envie de le partager. Donc c'est un petit peu ça. Oui, effectivement, c'est lié. C'est tout est lié, oui, effectivement.
Est-ce que vous avez joué à vous faire peur vous-même aussi? En l'écrivant.
Ah ben oui. De toute façon, c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller dans les extrêmes.
Ouais.
Donc j'essaie d'aller le plus loin possible à chaque fois. Et je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais lui faire comme misère à celui-là ? Ou qu'est-ce qu'elle pourrait lui faire à celui-là aussi ? Donc sans que ça soit trop gros aussi non plus, mais d'aller au plus loin de ce que je pouvais raconter. C'est un petit peu ma passion aussi des films fantastiques, d'horreur que j'avais quand j'étais gosse. Quoi.
Ouais.
Je me suis dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi j'essaierais pas un jour aussi effectivement de raconter ?
Comment pour la faire mourir ?
Mais voilà, c'est ça. Voilà. Puis de manière un peu visuelle, quoi, un peu rigolote. Enfin, c'était pas forcément le bon terme. Non. Bref, voilà.
Original, voilà.
C'est ça. Original. Donc d'aller un petit peu dans l'extrême, effectivement, c'est une sorte de parallèle, effectivement, avec ma culture cinématographique aussi, de ce que j'aime. Mais je rassure tout le monde, c'est que de la fiction, bien sûr.
Ouais. Bah, si vous aimez les histoires, enfin voilà, oui, qui partent dans tous les sens et qui finissent par toutes se rejoindre avec du sang, de la terreur, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est une déclaration d'amour déviant à la forêt, déviant d'un seul mot,
tu peux le dire,
à la forêt d'Irati, à la nature en général.
Bah, de toute façon, les horreurs humaines sont toujours gommées par la nature. Je pense que c'est ça la conclusion de l'histoire.
Est-ce que vous êtes arrivé comme David Lynch par exemple, je crois petit, je sais pas si c'est une légende, son père l'avait volontairement laissé une nuit dans la forêt justement pour qu'il voit ou qu'il imagine.
Alors non. On ne m'a jamais laissé dans une forêt, mais par contre j'ai dormi dans des forêts, oui, ça m'arrive régulièrement, oui, effectivement.
D'accord.
Lors des vadrouilles, quand je visitais des lieux, effectivement ça m'arrive de dormir sur place, oui effectivement.
Ouais.
Et je dors pas bien, forcément, je dors pas bien.
Bon, et ben, si vous voulez voir ce qui s'est passé cette nuit-là ou ces nuits-là, allez découvrir le meurtre dans les Pyrénées aux éditions, rappelle-moi.
La Geste.
Aux éditions La Geste. Merci Gilles Kerlock.
Merci Anthony.
Vous savez bien que sur MDM, il y a une chose qu'on adore, c'est vraiment mélanger les genres. Comment débuter avec Meurtre dans les Pyrénées, polar, thriller, même sanguinolent du côté d'Irati, pour se retrouver avec vous, Aurore Pourny, avec des livres pour enfants. Bonjour.
Sans transition, bonjour.
C'est pas des livres pour enfants gothiques ou non.
Non, mais c'est très préhistorique et voilà, beaucoup de transpiration et de testostérone.
D'accord, et on retourne à l'âge de pierre, je crois comprendre.
On peut.
À regarder les couves.
Oui, je vais vous proposer deux albums jeunesse qui m'ont bien fait marrer, qui viennent de paraître récemment. Alors le premier s'appelle « La caverne de Gilou », paru aux éditions du Père Fouettard. Gilou est un homme préhistorique, assez brut.
C'est un peu surprenant comme prénom, comme homme préhistorique.
Gilou ? Ouais, Gilou. Mais on aime bien casser tous ces codes. Évidemment, ça va être plein d'anachronismes.
Plus accordéoniste, on va dire.
Ouais, vous imaginez bien. Donc, Gilou aime sa caverne. Ouais. Mais bon, il se dit que peut-être qu'il y a d'autres cavernes mieux ailleurs. Donc, il faut absolument en fait, que je commence par vous en lire un petit peu. Donc, la caverne de Gilou. Ça, Gilou. Ça, caverne de Gilou. Gilou et mes cavernes. Bonne herbe verte, grosse pierre confortable. Ici, grotte parfaite. Ami de Gilou et mes cavernes aussi.
C'est écrit en Tarzoun, la langue de Tarzan. C'est...
En Tarzoun, tout à fait, en homme préhistorique.
On toi, Aurore Pourny.
Oui, et ça, Gilou, et sa caverne de Gilou.
Petit accent allemand quand même, si je puis me permettre.
Ben oui, parce que...
Petit accent teuton assez curieux, mais bon, mais pour oui, un homme des cavernes.
Parce que c'est un homme des cavernes. D'accord. De l'Est. Mais Gilou se dit que peut-être il y aurait une meilleure caverne ailleurs. Donc il va prendre ses petites affaires, son petit baluchon, et aller essayer de voir si il n'y a pas de meilleure caverne. Évidemment, comme tout album jeunesse, quand on s'en va à la découverte, à l'aventure. Il va rencontrer plein de personnages étonnants, de grottes occupées par des animaux plus drôles les uns que les autres.
Donc des lynx.
Mais oui, quatrième caverne, bien aussi, mais Gilou pas aimé chaton.
Des gros chatons, en l'occurrence, voilà. Avec des grandes dents.
Évidemment, c'est un gros chaton préhistorique. Et ce, tout du long, jusqu'à se rendre compte que, finalement, la meilleure caverne, c'était peut-être celle dans laquelle il était au départ.
Ah, il y a une morale, parce que j'allais vous dire, on commence par déjà vouloir convoiter le bien d'autrui.
Ben oui, l'herbe d'accord, est toujours plus verte ailleurs, mais non. Alors, je vais quand même vous lire le tout début de l'album, l'exergue de T.S. Eliot. Nous ne cesserons pas d'explorer, et l'aboutissement de toute quête sera d'atteindre l'endroit d'où nous étions partis et, pour la première fois, de le reconnaître. Donc en fait, on est quand même toujours très très bien chez soi. C'est la morale de l'histoire, si toutefois il en fallait une, parce que l'idée c'est quand même aussi de bien se marier avec cet homme préhistorique appelé Gilou.
La caverne de Gilou, c'est aux éditions Père Fouettard. À partir de quel âge, Aurore ?
À partir de 3 ans.
Ouais, un livre en cache un autre. Scrut cherche Scrut. Qu'est-ce qu'on entend des accents allemands partout ?
Donc le second album qui m'a aussi bien fait marrer, c'est un défi à tous les adultes de lire cet album jusqu'au bout sans erreur, sans que la langue fourche et sans se tromper et sans fourrir non plus. Donc le titre, Scrut cherche Scrut, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse par un duo de scénaristes et dessinateurs contemporains. Ils sont jeunes, loufoques, et on les adore. Donc, notre cher Scrut, qui a quand même une bonne tête de viking, tout coloré, un peu orange fluo, un jour se rend compte que son Scrut a disparu. Scrut, le Groot, cherche son Scrut. Son Scrut, son gentil Scrut qui gambadait dans le jardin a disparu. Scrut est très inquiet, son Scrut ne s'était jamais enfui ainsi. Donc, là aussi, rebelote, notre cher Scrut va partir à l'aventure, aller chercher son Scrut et sur le chemin rencontrer plein de personnages, dont Marion, le plus grand coiffeur de Lyon, qui va lui dire « Mais bien sûr, j'ai vu ton Scrut, que voici ?» Mais non, c'est pas mon Scrut, c'est une route. Donc il y a aussi énormément de jeux de mots.
Ouais.
Évidemment, plein d'anachronismes aussi et plein d'allitérations qui font.
Bah oui, un viking qui fait du stop, voyons.
Ben oui, et qui repart en tracteur, c'est génial. Il va aussi rencontrer Bigeleux, le chasseur de bêtes malchanceux. Il va aussi rencontrer Butch Cassido, l'as du lasso, et j'en passe, et des meilleurs. Et évidemment, la morale est sauve, notre cher Scrut va être retrouvé. Mais qui est donc Scrut ? On se le demande. Mais c'est la chute de l'histoire, donc d'accord, je ne vais pas le raconter. Donc là aussi, un album très, 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 très drôle, une aventure sur le comique de répétition, comme les enfants adorent.
Et où on apprend à parler viking. Ou Tarzoun.
Ou encore Tarzoun à partir de 4 ans.
Un livre avec du sang partout et avec de nouvelles langues, mais là pour les enfants. Merci beaucoup, Aurore.
Avec plaisir, merci, à bientôt.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.